pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le 8e Forum mondial de l'eau ouvre ses portes aujourd'hui à Brasilia. Plus de 40 000 personnes de 160 pays vont échanger jusqu'à vendredi autour d'un thème, l'eau en partage. Experts, décideurs politiques et représentants de la société civile vont tenter de faire émerger des solutions face à un tableau accablant. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde ont un accès limité à l'eau potable et 4,5 milliards de personnes ne disposent toujours pas de toilettes raccordées à des systèmes de traitement des eaux usées. Les situations critiques se multiplient, notamment dans les villes où les changements climatiques et la croissance démographique font monter la pression. Quels sont les défis à surmonter et les bonnes pratiques à promouvoir pour continuer à abreuver nos villes? C'est le thème d'une conférence organisée cette semaine à Paris par l'Agence française de développement et c'est dans leurs locaux que nous avons installé notre studio.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nous pour traiter de ce sujet crucial, quatre invités. Boubacar Kane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de la société malienne de gestion du secteur de l'eau potable, la SOMAGEP, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
La SOMAGEP, c'est la société fermière qui s'occupe de la gestion de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire en République du Mali.
En face de vous, Benjamin Gestin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Haute-Paris. Alors, en quelques mots, vous occupez de la gestion de l'eau à Paris. C'est simple.
En quelques mots, nous sommes l'opérateur public de gestion de l'eau à Paris. Nous gérons tout de la chaîne d'approvisionnement parisien pour 3 millions de personnes.
Donc, de la source au robinet et du robinet à la source.
Absolument.
À vos côtés, Pierre Jacquemot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du GRET, une ONG internationale qui intervient dans une vingtaine de pays.
Oui, une trentaine de pays. Oui.
Une trentaine de pays. Et alors, votre philosophie globale, c'est quoi?
Écoutez, notre philosophie globale, c'est d'apporter du développement durable aux populations les plus vulnérables, partout où on peut intervenir, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, dans la Caraïbe, sur des financements internationaux, mais également sur des financements de collectivités locales.
Et l'eau fait partie de vos sujets de préoccupation.
L'eau potable et l'assainissement.
Et nous allons en parler avec nous une femme, j'aurais pu commencer par vous. Céline Gilquin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la division eau et assainissement à l'AFD, la Banque française de développement, qui est présente, elle, dans...
Plus de 90 pays dans le monde.
Voilà, plus de 90 pays dans le monde. Et c'est donc vous qui avez organisé cette conférence ici, cette semaine. Alors avant de vous donner la parole à chacun, je vous propose de partir dans un endroit dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps, la ville du Cap, seconde métropole d'Afrique du Sud, très prisée des touristes. Elle est frappée depuis 2016 par la sécheresse. Le Cap dépend de 6 barrages pour son approvisionnement, mais ses réserves sont très basses, moins de 25% actuellement. Et le jour où elles atteindront moins de 13,25%, eh bien, il faudra couper l'eau dans une grande partie de la municipalité qui compte 4 millions d'habitants. Pour prévenir ce jour zéro, la ville a mis en place des restrictions sur l'eau du robinet, pas plus de 50 litres par personne et par jour, au lieu des 87 consommés habituellement. Les habitants ont donc dû s'adapter, comme l'a constaté sur place notre correspondante Lisa Fabian.
La foule qui se presse près de la source naturelle de Newlands donne un aperçu de ce que pourrait être le jour zéro au Cap. Quand les robinets ne couleront plus, les habitants devront faire la queue devant l'un des 200 points de distribution d'eau qui seront mis en service par la ville. Pour l'instant, ce jour zéro est prévu pour la mi-mai, mais avec des efforts, il pourrait être encore repoussé jusqu'aux premières pluies. Au bord de la route, Nicole reprend son souffle, des bidons pleins à ses pieds.
Jusque-là, nous n'avons jamais eu de coupure d'eau. Mais vous savez, mieux vaut prévoir qu'affronter le chaos. Donc nous venons chaque semaine près de cette source naturelle pour récupérer autant de bidons de 5 litres que possible. Là, aujourd'hui, j'ai à peu près 55 litres. C'est juste pour essayer de conserver l'eau du robinet. Chez nous, nous avons une citerne de 1000 litres pour récupérer l'eau de pluie. Elle nous sert à nous nettoyer et nous laver. Pour boire, nous achetons beaucoup de bouteilles et nous essayons de faire des stocks, juste au cas où.
Depuis le 1er février, l'eau du robinet est limitée à 50 litres par jour et par personne, sous peine d'une très grosse amende. Alors les habitants du Cap s'adaptent. Ils échangent leurs astuces pour économiser le précieux liquide. André Swart est l'un des administrateurs du groupe Facebook Watershedding Western Cape qui réunit près de 150 000 personnes autour de cette question.
La nouvelle réalité en Afrique du Sud, c'est la sécheresse. J'ai commencé à regarder l'eau différemment. Ce n'est plus possible d'ouvrir un robinet sans penser « Je suis en train d'utiliser de l'eau, il faut que je referme le robinet très vite ». J'ai par exemple installé des régulateurs sur mes robinets. Ma piscine est couverte pour que l'eau ne s'évapore pas.
Dans les townships qui entourent pour la ville, l'eau courante est depuis toujours un luxe. Ces immenses bidonvilles concentrent la plus grande partie de la population du Cap, des habitants pauvres, majoritairement noirs et métis. Mais ceux-ci ne comptent que pour 5% de la consommation totale d'eau du Cap. Félina vit dans une cabane de tôle avec ses 4 enfants et son mari.
Nous devons marcher en bas de la rue pour aller chercher notre eau. Là-bas, le robinet public fonctionne toujours. Mais ceux qui sont plus près de chez nous sont souvent coupés. C'est compliqué. Chaque jour, je ramène 40 litres environ.
Pour faire face à la crise de l'eau, la ville du Cap doit s'adapter très rapidement, mais cela nécessite d'énormes investissements. Kirsty Carden est spécialiste d'ingénierie civile pour le Future Water Institute à l'Université du Cap.
Pour tenter de repousser le jour zéro, la seule solution qu'avait la ville, c'était de pousser les gens à économiser l'eau. Sur le long terme, évidemment, la diversification de l'approvisionnement est essentielle. Nous devons nous sortir de notre dépendance à l'eau de surface, que ce soit en exploitant les ressources des nappes phréatiques, en récupérant l'eau de pluie ou en traitant l'eau des égouts pour qu'elle soit potable. Et bien sûr, avec la désalinisation. Même si nous espérons que le gouvernement ne construira pas de très grandes centrales de désalinisation qui sont très gourmandes en énergie.
L'État s'est engagé il y a peu à déclarer la sécheresse qui touche le Cap Oriental catastrophe nationale, ce qui devrait permettre de débloquer des fonds pour améliorer l'infrastructure. Lisa Fabian, de retour du Cap, RFI.
Céline Gilquin, je rappelle que vous êtes responsable de la division eau et assainissement à l'AFD. Est-ce que la ville du Cap est un cas isolé ?
Non, il y a une étude d'ailleurs scientifique qui a été publiée début janvier et qui indique qu'il y aurait 130 villes dans le monde qui seront exposées dans les années qui viennent à justement des situations de pénurie d'eau.
Avec des causes différentes, j'imagine ?
Avec des causes différentes. Donc comme vous l'avez rappelé, il y a déjà aujourd'hui plusieurs milliards, donc 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau à domicile. Et puis pour l'assainissement, la situation est encore plus critique. Donc on a 4 milliards, c'est-à-dire 60% de la population qui n'a pas accès à des toilettes à domicile raccordées à un système d'eau usée. Et cette situation, elle va s'aggraver effectivement du fait de la croissance démographique et en particulier urbaine qui est très significative. On s'attend à ce que dans les pays en développement, il y ait une population urbaine qui soit multipliée par 2 à l'horizon 2030 et donc une augmentation très forte des besoins en eau qui va se conjuguer avec des effets du changement climatique, alors qui ne vont pas affecter de manière équivalente hein, toutes les régions du monde, mais dans certains pays, de certaines villes, on va se retrouver avec des situations de stress hydrique et la grande sécheresse qui a touché l'Afrique australe et donc que subit le Cap est un exemple. On a aussi des exemples, un autre exemple en Bolivie, donc voilà, des zones différentes où on a eu une crise de l'eau en 2016 hein, qui a pris des proportions très significatives. L'armée a été mobilisée. À La Paz, on a eu 300 000 personnes qui ont été coupées pendant plusieurs semaines et avec aussi des solutions qui sont mises en œuvre pour essayer justement d'anticiper, d'éviter ces crises, la multiplication de ces crises à venir.
Boubacar Kane, la ville de Bamako a vu sa population doubler en 10 ans, hein. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage de la population à Bamako qui a accès à l'eau potable et à l'assainissement ?
L'eau potable, c'est environ 65% de la population qui a accès et l'assainissement, c'est beaucoup moins que ça, c'est moins de 20% de la population qui a accès à l'assainissement. Et nous sommes confrontés effectivement à un problème de démographie, de croissance démographique très forte. Bamako est la ville qui croît le plus en Afrique en termes de population. Mais surtout, le problème ne se pose pas en termes de ressources en eau, mais en termes des capacités de production. C'est-à-dire que ce sont des usines de traitement de l'eau qui manquent le plus. Et Bamako, aujourd'hui, a un déficit chronique en eau potable de l'ordre de 150 millions de litres par jour. Puisque nous n'avons qu'une capacité de 200 millions de litres pour une demande d'environ 350 millions de litres.
Alors, on entendait dans le reportage que les habitants du Cap étaient limités à 50 litres d'eau par jour. À Bamako, quelle est la consommation moyenne par habitant ?
La consommation moyenne est de l'ordre de 82 litres par personne par jour.
Oui, mais ça doit dépendre évidemment des quartiers.
Voilà, ça dépend des quartiers, ça dépend des usages. Ça, c'est une consommation moyenne. Hein. Il y a la consommation des industries et tout ça, ramené à la population, c'est 82 litres par jour. Il va sans dire qu'il y a des personnes qui s'approvisionnent au niveau de Bornes-Fontaines qui n'ont une dotation qui est de 20 litres par personne par jour.
Benjamin Gestin, vous vous occupez de l'eau de Paris. Alors évidemment, ce sont des conditions différentes, mais avec des défis un peu similaires. Un Parisien, par exemple, consomme quelle quantité d'eau en moyenne ?
Environ 120 litres par jour. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a effectivement pas le même point de départ, mais on a les mêmes défis. Quand on parle de changement climatique, la région parisienne va être soumise aux effets du changement climatique. On va avoir des problèmes d'excès d'eau, des crues, qui ont un impact sur la qualité de l'eau et sur la fourniture d'eau.
On l'a vu récemment.
On l'a vu récemment au mois de janvier, on l'a vu surtout au mois de juin 2016 avec une crue assez exceptionnelle pour cette période de l'année. On va avoir des problèmes d'étiage sévère dans les rivières. On parle, les hydrogéologues parlent de moins 30% sur le débit de la Seine en période d'étiage.
Alors qu'est-ce qu'un étiage ?
L'étiage, c'est le niveau moyen des rivières. Moins 30% quand on sait que la Seine fournit à peu près la moitié de la ressource en eau potable pour la région parisienne, c'est un vrai défi. On parle aussi de croissance démographique. Alors, ce n'est pas les taux de croissance de Bamako, mais la région parisienne continue à gagner des habitants. Si Paris elle-même est assez stable en termes de population, l'agglomération, elle, continue à croître. Donc, même défi, point de départ différent, et puis un vrai sentiment de solidarité.
Pierre Jacquemot, vous qui représentez les ONG ici, quels sont les constats que vous faites sur place ? Est-ce que c'est plutôt la crainte de voir ces villes qui grossissent, les quartiers en périphérie des villes qui sont toujours les moins bien desservis ? Enfin, sur quel levier vous agissez en premier ?
La première observation qu'on peut faire dans la plupart des villes du Sud, c'est plus on est pauvre, moins on a accès à l'eau, et quand on a accès à l'eau, on la paye beaucoup plus cher. Je cite parfois l'exemple de Nairobi, que je connais personnellement. Lorsque vous êtes dans le quartier riche, ultra riche de Mitaiga, vous payez l'eau 10 fois moins cher que dans le quartier de Kibera. Et dans le quartier de Kibera, vous n'avez pas l'eau en continu, puisque ça arrive par camion-citerne. Donc il y a des écarts comme ça qui sont absolument, évidemment, totalement intolérables. En plus, les pauvres, ce sont eux qui subissent l'absence d'assainissement, et donc qui sont victimes, excusez-moi l'expression, mais elle est suffisamment lourde de sens, du péril fécal, du fait de l'absence donc, de gestion des eaux usées liquides, et avec tout ce que ça peut entraîner sur, en matière d'hygiène et surtout de santé, avec les maladies hydriques associées. Donc on est devant un constat d'une violence terrible de voir les populations des quartiers les plus précaires, les plus vulnérables, les plus victimes de cette situation un peu généralisée, à la fois de pénurie. C'est pas seulement une question de quantité d'eau, évidemment, c'est une question, encore une fois, d'accessibilité, de prix abordable, de qualité, de continuité du service. D'ailleurs, quand il y a des coupures d'eau, dans la plupart des villes, en particulier du Sud, mais peut-être du Nord aussi, je ne sais pas, c'est souvent lorsqu'il faut faire des arbitrages sur la distribution d'eau par quartier, c'est en général les quartiers périphériques ou les quartiers pauvres qui subissent le plus ces délestages.
Alors face à ces situations, ce qui prime, c'est l'art de la débrouille. Je vous propose d'aller à Lomé, la capitale du Togo, où seulement la moitié des 2 millions d'habitants a accès à l'eau potable. Les autres s'organisent en achetant de l'eau au robinet de leur voisin, qui a pu emprunter suffisamment d'argent pour creuser son propre forage, comme nous avons pu le constater. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Je suis en train de puiser de l'eau. Oui.
Je vous ai déconcentré là, c'est pour ça que l'eau s'est renversée.
Oui, oui, c'est à cause de vous.
Oh, je suis désolée. Vous venez ici tous les jours ?
Oui, tous les jours.
Vous prenez combien de bassines ?
4. Ça, c'est 50 francs.
50 francs les 4 bassines ?
Oui.
Elle vous sert à quoi, cette eau ?
On prépare avec ça, on se lave avec ça, on boit ça aussi.
Et si vous venez ici, c'est parce que vous n'avez pas d'eau chez vous ?
Oui, c'est un peu loin aussi. Ça nous rend fatigue aussi, oui.
Et vous portez cette bassine d'eau sur votre tête, c'est lourd, non ?
C'est lourd. Au moins, on peut faire 4 fois, mais pas plus que ça. Comme c'est loin, là, oui.
Après, ça fait mal au cou, non ?
Oui, ça fait mal au cou. Au niveau d'ici aussi, ça fait mal.
Bon, je vais vous laisser repartir parce que vous avez encore des allers-retours à faire.
Oui, il reste une fois. Oui.
Merci, madame. On va aller voir maintenant un vendeur d'eau pour comprendre comment on creuse un forage. Et on va rentrer dans cette maison-là, un tout petit peu plus loin.
Je m'appelle Jean et Clou à mes gants.
Nous sommes dans quel quartier de Lomé ici?
Ici précisément, c'est Tochigan.
C'est où dans la ville?
Ça, c'est au nord-est de la ville.
Est-ce qu'il y a de l'eau potable qui arrive jusqu'ici?
Pas dans toutes les maisons. Par exemple, sur la ligne là, il n'y a pas la régie. Le tuyau de la régie n'emprunte pas la voie du tout. Donc la plupart qui sont sur la ligne, beaucoup ont fait le forage pour pouvoir se satisfaire, si vous voulez.
Donc vous avez fait un forage, ça coûte combien un forage?
Tout réuni, il faut 1 400 000.
Il va chercher l'eau à quelle profondeur, votre forage?
Chez moi, le minimum, ça fait 49 mètres.
Donc ça vous sert pour vous, votre famille, et puis devant, vous avez un robinet, parce que du coup,
oui,
vous vendez
oui,
l'eau?
Oui, nous vendons l'eau pour les amis du quartier, parce qu'il ne faut pas parcourir des kilomètres avant de l'obtenir. Voilà.
Et c'est comme ça que vous vous remboursez un peu des frais que vous avez eus?
Les frais, surtout quand la machine va tomber en panne, et ensuite les frais d'électricité, oui.
Et ça vous suffit donc ce puits pour vous, votre famille et pour vendre? L'eau, il y en a toujours.
Il y en a toujours.
Et il y a beaucoup de gens qui viennent vous acheter de l'eau?
Le mal, c'est que chez moi, il y a celle-là aussi qui vend.
Le voisin,
puisque nous avons fait le puits ensemble.
C'est la concurrence, quoi?
Voilà, exactement. C'est la concurrence.
Est-ce que vous savez qu'il y a une loi qui existe, qui interdit les forages privés comme ça, et que le gouvernement a l'intention de faire appliquer cette loi?
Est-ce qu'il peut l'appliquer? C'est la question, parce que toutes les familles ici souffrent d'eau. Et si nous arrivons à faire un forage, maintenant l'État va se présenter pour dire que ouais, je vais vous pénaliser, je vais faire ceci, cela. Voilà, c'est difficile.
Parce que l'État considère que l'eau est une ressource économique pour lui aussi.
Si c'est une ressource économique, il fallait faire passer la régie, passer le tuyau, et nous allons fermer nos forages, s'il le veut ainsi.
Donc si l'État fait appliquer cette loi, ça va être la révolution à Lomé.
Ah ben, moi je verrai celui qui viendra me demander, je ne serai pas d'accord. J'ai fait un prêt pour pouvoir faire ce forage, vous imaginez?
Les gens pourraient se soulever pour ça?
Pour ça, oui. Les gens, je ne suis pas le seul. Normalement, c'est à l'État, au moins, de donner de l'eau à sa population, à boire, au moins c'est de l'eau. Maintenant, nous nous débrouillons pour en avoir. On dit que l'État viendra faire passer sa loi. Il n'a qu'à venir. On attend.
Boubacar Khan, vous dirigez la Somagep, la société malienne de gestion du secteur de l'eau potable. Je vous ai vu sourire, même presque rire au propos de ce monsieur.
Oui, il faut dire que c'est les mêmes problématiques. Hein. Lomé, c'est tout près du Mali. Nous avons une association qui s'appelle l'Association africaine de l'eau et qui regroupe tous les opérateurs d'eau d'Afrique, y compris l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone. Je me retrouvais dans ce qu'il disait, c'est pourquoi j'étais en train de sourire.
Mais vous comprenez sa revendication, c'est vrai qu'il dit c'est à l'État finalement de nous apporter cette ressource et faute d'arriver de l'eau chez nous, on se débrouille, on creuse quoi.
Ah oui, je pense qu'il a parfaitement raison, ça va être très difficile à l'État de fermer des forages des privés, des forages qui sont d'utilité publique. On a vu que les voisins viennent s'approvisionner à nous chez eux. Tant que les sociétés publiques comme la Somagep ou l'État n'arrivent pas à étendre les réseaux à toutes les populations, il va être extrêmement difficile d'appliquer cette loi qui va être votée au Togo.
Pierre-Jacques Mont.
Oui, il y a peut-être aussi des solutions à l'échelle des besoins d'un quartier qui ne sont pas nécessairement des solutions individuelles qui pourraient mettre d'ailleurs en péril la nappe phréatique. Il y a dans un certain nombre de pays, dans les quartiers pauvres, des solutions de type borne-fontaine qui peuvent bien gérer, peuvent permettre de satisfaire les besoins en eau de la population. Il y a d'autres modèles qui empruntent, disons, un modèle entrepreneurial où un opérateur décide d'exploiter un forage, mais sous un contrôle public de façon à ne pas polluer la nappe, d'assurer une qualité de l'eau. Il est redevable vis-à-vis des usagers. Il y a un contrôle public qui s'exerce. Donc, il y a une palette de modèles d'intervention qui évite ce genre de désagrément. Encore une fois, je comprends que les gens cherchent des solutions, mais il faut que l'État soit en mesure de pouvoir offrir cette palette de solutions.
Comment optimiser la gestion de l'eau et de l'assainissement dans des villes qui ne cessent de grossir? Il y a des solutions. Vous venez d'en signaler quelques-unes. Nous en parlons avec nos invités juste après le flash d'info. À tout de suite.